Quelque part au Moyen-Orient, perdu dans les entrailles des terres et des sables, oublié de la plupart des hommes, dorment 3000 ans d'histoire. Bienvenue aux Antiquités Orientales, l'émission qui vous emmène sur les traces des grandes civilisations du Moyen-Orient, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
C'est l'histoire d'une montagne.
Perdu au beau milieu des autres monts rocheux, ce grand caillou bravait les siècles de la même manière qu'il affrontait les vents tourbillonnants des sommets.
C'est-à-dire, il ne faisait rien. Notre cher caillou faisait si bien rien qu'il avait eu le temps de tout voir du monde. Il fit partie des océans les plus grands et des sommets les plus hauts, survécut aux orages, aux tempêtes, aux explosions et aux séismes les plus terribles, avait observé l'entièreté du vivant, des créatures les plus anciennes jusqu'aux premiers hommes, si bien que notre grand caillou avait ainsi acquis la conviction qu'il traverserait l'éternité exactement comme il avait toujours été. C'était sans compter sur un beau jour du 5e siècle avant Jésus-Christ que des bipèdes bizarrement accoutrés, probablement des humains, choisirent pour venir chambouler le si monotone quotidien de son Altesse le caillou. Ils taillèrent dans les veines de sa roche une fresque accompagnée de quelques inscriptions. Furieux de s'être fait attaquer de la sorte, le grand caillou fit ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire rien, et à peine eut-il pu se remettre de ses émotions que quelques 2000 ans plus tard, c'est dire à quel point son répit fut court, il fallut encore qu'un autre de ces hurluberlus d'humains vienne se présenter devant lui. Celui-là était encore plus ridicule que les autres, puisqu'en regardant ce que ses congénères avaient fait 2000 ans plus tôt, il se persuada qu'un de ses congénères, qu'il appelait Christ, avait fait l'ascension du grand caillou et repartit comme il était venu. Et encore, l'espace d'un claquement de doigts, 300 ans s'écoulent avant qu'un autre groupe de bipèdes bizarroïdes venus d'une certaine Angleterre ne s'arrête devant lui. Ils l'observèrent longtemps, jusqu'à ce qu'un de ses énergumènes rameuta d'autres des siens et ne vienne commettre l'irréparable. Il lui grimpa dessus et passa quelques jours à scruter les plaies que lui avaient infligées ses semblables 2 millénaires plus tôt. Cette fois, c'en était trop. Le grand caillou déchaîna cette colère qu'il avait accumulée depuis 2500 ans. Il n'a rien fait. Et c'est comme ça qu'un grand caillou qui faisait rien a continué de ne rien faire, mais avec des inscriptions perses sur lui, et c'est aussi en partie grâce à ce caillou que va naître en Europe l'archéologie du Proche-Orient, dont l'histoire va nous occuper dans cet épisode, particulièrement à travers les débuts de l'archéologie iranienne. Bon, depuis le début, je vous parle d'archéologie sans vraiment vous avoir dit ce que c'était, alors en voici sa définition sous sa forme la plus moderne. L'archéologie, c'est la discipline qui étudie le passé de cultures à partir de ses restes matériels. Ces restes matériels peuvent aller du simple bout de céramique à la ville tout entière en passant par des armes, des jouets, des bijoux, des restes humains, un bâtiment, même un bout de mur, une pierre, bref, tout ce qui est inhérent à l'homme ou a pu avoir un rapport de près ou de loin avec lui peut être scruté, disséqué ou analysé par l'archéologie. La seule condition que l'objet doit respecter pour être considéré comme objet archéologique est qu'il doit appartenir au passé. La chose qui différencie la chaise sur laquelle vous avez posé vos fesses de la pierre de Rosette au British Museum, c'est la durée de 60 ans minimum entre aujourd'hui et le moment où l'objet a été créé. A l'inverse, une commode Louis XV ou le livre centenaire qui traîne dans votre armoire, ça, c'est déjà des objets qui appartiennent à l'histoire. Je vous laisse méditer là-dessus. Toujours est-il que l'archéologie d'aujourd'hui s'appuie sur des méthodes très précises pour étudier les restes du passé, méthodes qui s'adaptent à ce qu'elles fouillent. En gros, vous n'allez pas fouiller un camp d'extermination nazi comme vous allez fouiller une ancienne capitale assyrienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains archéologues sont spécialisés sur des périodes, des contextes culturels particuliers ou même certains types d'objets. C'est là qu'on arrive à ce qu'on appelle l'archéologie du Proche-Orient ou archéologie proche-orientale, qui est une appellation très vague pour dire que c'est de l'archéologie qui s'adapte au terrain, aux matériaux et aux structures qu'on trouve dans les civilisations anciennes du Proche-Orient. Dernière précision, le Proche-Orient, c'est la région du monde qui contient les pays comme la Syrie, l'Irak, le Koweït, l'Oman, le Yémen, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Liban, l'Iran, enfin bref, vous avez compris. Alors, pourquoi parler histoire de l'archéologie et pourquoi archéologie iranienne en particulier? C'est quand même un peu précis. Eh bien, pour la première question, je vous dirais que l'histoire de l'archéologie proche-orientale est très intéressante parce que déjà, elle est pleine de rebondissements, de rivalités entre pays qui se déchirent pour fouiller les pays orientaux, mais aussi parce que cette course archéologique soulève tout un tas de questionnements qui ont encore de l'écho dans notre société aujourd'hui et qu'on ira creuser à la fin de l'épisode. Ensuite, pourquoi archéologie iranienne? Eh bien surtout parce que cocorico, la France a joué un rôle pionnier dans son émergence et croyez-moi, c'était pas gagné au départ.
Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Voilà pour ce qui est des définitions, notamment de l'archéologie moderne, mais qu'en est-il de ses origines et de celles de l'archéologie du Proche-Orient ? Alors, l'archéologie en tant que telle commence à être théorisée comme discipline à la fin du XVIIe siècle, dans le contexte de l'époque moderne, une période où l'Europe occidentale redécouvre les civilisations de l'Antiquité qui la fascinent, ce qui la pousse à développer des outils pour étudier ces civilisations perdues, et l'archéologie fait partie de ces outils. Au début, on s'intéresse principalement à l'Antiquité grecque ou romaine, mais on commence aussi rapidement à se tourner vers l'Orient lorsque différents voyageurs occidentaux qui se sont rendus dans les terres assez mal connues du Proche-Orient publient et racontent les récits de leur voyage dans les salons mondains où ils exhibent parfois des objets qu'ils ont emportés avec eux. Et voilà comment un Anglais du nom de Sir Robert Shirley se rendit un beau jour de 1598 en Iran, qui s'appelait alors la Perse, et tomba sur notre cher caillou du début de l'épisode. Ce rocher inscrit, c'est en fait un pan d'une montagne qu'on a appelé plus tard Beistoun, et les bipèdes bizarres qui viennent tailler le caillou dans mon histoire ne sont nul autre que des Perses du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui sont venus graver en trois langues différentes les victoires militaires de leur roi Darius Ier. Sauf que Shirley, quand il tombe dessus par hasard, lui, il sait pas tout ça. Lui, tout ce qu'il voit, c'est une fresque qui ressemble vaguement aux représentations de l'ascension du Christ, c'est l'interprétation du relief qu'il va donner à son retour en Europe. Attention, je ne jette pas la pierre à Shirley. On est quand même à la toute fin du XVIe siècle, et c'est assez évident qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. Donc, il a interprété avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec une connotation chrétienne qui n'a rien à voir avec le caractère de la fresque et de l'inscription. Malgré cette, disons, erreur d'identification, c'est avec ce type de voyage et de découverte plus ou moins inattendue que commence à germer en Occident, lentement mais sûrement, tout un imaginaire relié à l'Orient qui permet aux premières études sur l'Antiquité orientale de bourgeonner. Au XVIIIe siècle, des Européens continuent de parcourir la Perse, et notamment une expédition en particulier, envoyée entre 1761 et 1767 par le roi du Danemark, va découvrir à Persépolis, l'ancienne capitale des Perses, qui ont gravé le rocher au 5e siècle, des inscriptions dans une écriture étrange, qu'on appellera plus tard cunéiforme, du latin cuneus qui veut dire clou, parce que les signes qui la composent ressemblent, selon ceux qui ont travaillé dessus en premier en tout cas, à un assemblage de clous. De ces inscriptions, un certain Carsten Niebuhr, qui fait partie de l'expédition danoise, fera de très précieuses copies qui seront le point de départ d'un déchiffrement qui ressusciterait aux yeux de l'Europe des civilisations vieilles comme le monde. Sur les 50 et quelques années qui suivirent, les savants européens, dont une bonne part de français, vont plancher sur le déchiffrement des inscriptions cunéiformes de Persépolis, copiées par Niebuhr, mais il manquait peut-être à ce moment-là aux études orientales une découverte assez retentissante qui enflammerait pour de bon l'étincelle provoquée par Carsten Niebuhr et les voyageurs du siècle qui venaient de passer. Alors, quant à l'aube du 19e siècle, les intérêts politiques et commerciaux portés par l'Europe occidentale aux pays orientaux la poussera à envoyer des expéditions militaires dans ces contrées, l'étude de l'Antiquité orientale connaîtra un tournant sans précédent. Entre 1798 et 1801, coincé entre les canons et les baïonnettes de l'expédition militaire française, qui voulait s'emparer de l'Égypte pour contrôler la juteuse route des Indes au détriment de la Grande-Bretagne, les truelles de la délégation scientifique tirèrent la pierre de Rosette d'un long sommeil de plus de 2000 ans. La suite, si vous avez écouté le premier épisode de l'émission, vous la connaissez. En 1822, Jean-François Champollion déchiffre les hiéroglyphes, gros boom médiatique, et l'Égypte ainsi que l'Orient en général deviennent à la mode dans toute l'Europe. Suivant alors la route pavée par l'expédition en Égypte, et forte de son influence dans l'Empire ottoman qui contrôlait alors la quasi-totalité du Proche-Orient excepté la Perse, la France multiplie les expéditions archéologiques en Orient. Dans la Turquie ottomane d'abord, entre 1833 et 1838, on trouve, sans le comprendre réellement, les premières ruines de l'Empire hittite. Dans la Perse de 1839 ensuite, on profite d'une mission diplomatique pour dégager ces ruines. Dans les années 1840, c'est l'Irak qui révèle ses premiers reliefs assyriens, puis c'est au tour du Liban et de la région palestinienne de livrer leurs trésors à la France lors de l'expédition militaire de 1860 et 61. Dans le même temps, l'étude du monde oriental s'institutionnalise en France avec la fondation en 1795 de l'École spéciale des langues orientales, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'INALCO, du National des langues et civilisations orientales, et qui va devenir l'endroit par excellence pour étudier les langues orientales en Europe, ou encore la Société asiatique en 1822. Mais l'Empire français, bien que pionnier dans l'émergence de l'archéologie proche-orientale, n'est pas le seul à s'aventurier en Orient. En parallèle de ces découvertes, l'Angleterre envoyait aussi ses propres militaires et diplomates dans les ruines des anciens. C'est ainsi que le général Rawlinson, se rendant en Perse pour une expédition militaire, se retrouva en 1837 devant notre cher Grand Caillou. Vous l'avez pas oublié quand même. Rawlinson, qui s'était passionné pour les inscriptions perses de l'Antiquité, arrive avec l'idée de copier les inscriptions en écriture cunéiforme du mont Behistun. Ces inscriptions notent en réalité le même texte, mais en trois langues différentes, qui sont le vieux perse, l'élamite et le babylonien. Mais problème, elles sont à plus d'une dizaine de mètres au-dessus du sol et rien ne permet de les atteindre facilement. Obnubilé par ces traces d'un passé lointain, Rawlinson décide au péril de sa vie d'escalader le rocher pour se suspendre dans le vide à l'aide de cordes afin de copier l'inscription. Le jeu en valait la chandelle, puisque 10 ans plus tard, Rawlinson publie sa lecture des trois inscriptions, et de là, il ne faut que 10 ans seulement avant que le consensus scientifique ne l'emporte. En 1857, les Européens venaient officiellement de déchiffrer l'écriture cunéiforme. Imaginez le retentissement d'une telle découverte. Les tonnes d'objets inscrits en cunéiforme qu'on avait découverts à l'époque des premières fouilles, objets autant perses qu'élamites, assyriens ou babyloniens, et qui nous étaient jusque-là seulement les témoins muets, du monde oriental antique allait se mettre à nous parler pour nous raconter leur histoire. L'heure de ce déchiffrement, faite en grande partie par les Anglais, marqua aussi un tournant dans une course aux découvertes entre la France et l'Angleterre, qui se jouait déjà en filigrane lors des premières trouvailles. Si en Égypte la France semblait prendre une grosse avance sur les Britanniques, en Perse, la situation était inverse. Entretenant des liens plus forts avec le souverain et l'État, les agents de la couronne anglaise profitèrent du désintérêt relatif de la France envers la Perse au début du 19e siècle pour s'avancer plus loin que les Français dans la découverte de ces sites archéologiques. Ce retard, la France va essayer de le combler avec des premières fouilles en 1840-41, profitant alors d'une mission diplomatique en Perse qui devait conclure avec elle des accords commerciaux. L'Angleterre réplique en 1852 en identifiant pour la première fois la ville antique de Suse, qui deviendra pour le 19e siècle le plus gros complexe archéologique retrouvé en Perse. Ce n'est que dans les années 1880 que l'Empire français va réussir à renverser la balance, notamment avec l'intervention d'un jeune couple dont je vais vous raconter brièvement l'histoire, Marcel et Jeanne, Dieu la foi. Polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, Marcel Dieu la foi découvre l'Orient et se passionne pour ses antiquités à la fin des années 1860. Autant Marcel Dieu la foi est un homme de la haute société bien en place à son époque, autant sa femme Jeanne Dieu la foi n'est magre, mon Dieu quel personnage! On la connaît beaucoup pour ses romans, mais elle s'est essayée au théâtre, à la nouvelle, à la photographie et même au journalisme, et quand la guerre franco-prussienne éclate en juillet 1870, Jeanne n'hésite pas à revêtir l'uniforme de franc-tireur réservé aux hommes et s'engage avec son mari pour combattre dans l'armée de la Loire. Elle n'a que 18 ans et vient à peine de se marier à Marcel Dieu la foi. Après un premier voyage en Égypte et au Maroc, les Dieu la foi prennent goût à ce qui semble être pour eux l'aventure, et c'est en 1880, lors de leur premier voyage en Perse, que l'avenir du couple va basculer. Les Dieu la foi tombent amoureux de la Perse, de ses paysages, de sa culture, de son art, mais aussi de son histoire. Emportés par ce qu'ils en ont vu, le couple décide d'y revenir. Seulement, cette fois, le voyage prendra la forme d'une mission officielle d'exploration, une véritable mission archéologique. Pour ce faire, il fallait convaincre les institutions françaises de financer et d'appuyer ce voyage par la voie diplomatique, ce qui ne fut pas chose aisée. Marcel Dieu la foi remua ciel et terre pour obtenir des financements. Il reçut finalement ceux du directeur des musées nationaux et ceux du secrétariat de l'instruction publique pour un total de 45 000 francs environ, ce qui correspond à une broutille pour une mission archéologique. Craignant la concurrence de l'Angleterre, Marcel Dieu la foi s'empressa de faire régler la question diplomatique. En 1883, il impulse via le ministre en charge des affaires françaises en Perse une rencontre avec le Shah, le roi, en persan, pour négocier l'obtention d'un firman, c'est-à-dire une autorisation venant du Shah en personne, faisant office de loi, firman qui permettrait à sa mission de fouiller légalement en Perse. Cette première rencontre aboutit à un non catégorique. La cause ? Lorsque le ministre de France exposa le projet de Dieu la foi de fouiller les ruines des sols perses au Shah, celui-ci comprit, par un malheur de traduction, que la France voulait fouiller des cimetières, ce qui est formellement interdit par la religion musulmane.
Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
S'ensuit donc 8 mois d'âpres négociations et de péripéties, au bout desquelles, en 1884, Marcel Dieu la foi reçut enfin le firman, lui permettant de fouiller, entre autres, la ville antique de Suse, celle qui avait été repérée 30 ans plus tôt par des archéologues anglais. Partis de Marseille en bateau, les dieux la foi firent une première escale à Constantinople, qui s'appelle aujourd'hui Istanbul, traversèrent la mer Noire jusqu'en Géorgie et de là montèrent à cheval pendant les 14 mois d'expédition à travers toute la Perse. Jeanne avait d'ailleurs pris l'initiative de se coiffer et de s'habiller pour ressembler à un homme, pensant que cette apparence lui permettrait de moins attirer l'attention des habitants sur la mission. Les dieux la foi font face à la famine, à une chaleur écrasante, aux attaques de pillards et à la dysenterie qui s'érigent entre eux et Suse comme autant d'obstacles dressés contre leur future découverte. Dès leur arrivée à Suse, le couple se concentre sur ce qui les occupera durant toute la campagne de fouilles, le dégagement du palais de Suse. Ils dressent ensemble un nouveau plan du site, découvrent divers artefacts, dont l'extraordinaire frise des archers, qui représentait dans un mélange aux couleurs éclatantes ces soldats d'élite redoutables, armés de lances et doués du talent de l'archerie, que les auteurs grecs appelaient immortels. Mais les recherches pratiquées par le couple à Suse ne sont néanmoins pas toujours vues d'un bon œil par tout le monde. La fouille par des chrétiens étrangers du tombeau de Daniel, situé juste à côté de Suse, est perçue comme une profanation par les musulmans de Perse qui le considéraient comme un lieu de pèlerinage. Cette hostilité grandissante les pousse à prendre les armes contre la mission archéologique et le gouverneur de la région, qui avait été obligé par le firmament de protéger l'expédition, finit par demander la cessation des fouilles en 1885 en estimant qu'il ne peut plus remplir sa mission et que les troubles provoqués par l'entreprise des dieux la foi déstabilisent l'équilibre de la région. C'est donc dans cette atmosphère à la fois d'excitation et de tension que Jeanne et Marcel Dieu la foi vont mettre sur papier les résultats de leur expédition. Dans son journal de voyage, Jeanne ne se contente pas de noter les découvertes qu'elle et son mari font sur le sol de Suse. Elle y inscrit ses pensées, fait des observations sur la culture et la religion persane, dessine et photographie les paysages qu'elle rencontre. Son journal, ainsi que beaucoup d'autres qui suivront, seront publiés en France à son retour sur le vieux continent. Son mari, lui aussi, s'attarde dans son carnet sur les paysages et les visages que la Perse met sur son chemin, mais il fait aussi l'inventaire par des dessins, des plans et des listes de tout ce que les fouilles mettent au jour, avec le soin dont on était capable à l'époque, et c'est lui qui publiera la synthèse des découvertes archéologiques de l'expédition, peu après son retour de fouilles en 1890. Ce tout premier voyage archéologique officiel en Perse ouvrira alors la voie à presque un siècle entier de fouilles françaises à Suse, où s'enchaîneront des découvertes capitales pour l'archéologie du Proche-Orient. Ce sont les récits comme ceux des dieux la foi qui fondèrent l'archéologie proche-orientale. Les premiers voyages archéologiques sont entrepris dans l'immense majorité, au XIXe siècle, par des militaires ou des diplomates européens et fournissent à l'archéologie proche-orientale une origine autant intriquée dans les activités militaires de l'Europe en Orient, soutenue par les États européens, autant qu'elle était conçue comme une forme de loisir de généraux, de diplomates ou d'intellectuels qui, animés par la fièvre de l'aventure et de la découverte, débloquent des fonds et des autorisations pour mettre au jour les vestiges de ces civilisations millénaires. À leur retour d'Orient, et grâce aux émules provoquées par leurs découvertes, les récits de ces premiers découvreurs ont consolidé en Europe les balbutiements d'un imaginaire fantasmé de l'Orient, un véritable courant qui affecte les arts, la littérature, l'artisanat et surtout les mentalités européennes, mouvement initié par les voyageurs des XVIe et XVIIe siècles. Au XIXe siècle, l'Occident ne se passionne plus pour l'Orient par simple curiosité, mais plutôt parce qu'il lui permet de définir la culture occidentale comme civilisée face à une culture orientale qui serait sauvage et primitive. D'autre part, la mise au jour de villes entières aux complexes palatiaux et religieux toujours plus impressionnants comme celui de Suse, attribué souvent à un seul homme, a laissé un boulevard dans les esprits européens au fantasme de l'archéologue aventurier, ce héros casse-cou et obsédé par sa quête de savoir, avec son bureau jamais bien rangé, faisant figure de cabinet de curiosité, son carnet parsemé de croquis, de plans, d'objets, de paysages, de cartes et toutes les interrogations qui vont avec. Cet imaginaire a continué de vivre durant tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, en parsemant le cinéma des Lawrence d'Arabie, des Indiana Jones et même plus récemment nos jeux vidéo avec les Nathan Drake et Lara Croft.
Vous écoutez bien les Antiquités Orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Mais cette idéalisation de l'archéologue aventurier et du récit qui l'accompagne passe sous silence de lourdes questions éthiques posées par l'archéologie proche-orientale telle qu'elle a émergé au XIXe siècle. Ces questions, mon récit du voyage des dieux la foi les écarte volontairement parce qu'elles ne se posaient pas vraiment à l'époque, ou du moins pas de la manière dont l'archéologie du Proche-Orient se les pose aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas ici de juger l'attitude des gens du 19e siècle, puisqu'ils appartenaient à leur temps et baignaient dans les idées qui vont avec. Par contre, ce que je veux mettre en évidence, c'est les conséquences qu'ont entraîné la figure de l'archéologue aventurier. La première de ces questions éthiques est qu'avec cette figure de l'archéologue aventurier qui a traversé le 19e siècle, l'historien est obligé de contribuer malgré lui à l'écriture d'une histoire qui oublie, lorsque les seuls documents dont il dispose ne racontent souvent que l'histoire des 2-3 Européens les plus associés à une découverte et ne permettent que très peu d'enrichir le récit du point de vue de l'ouvrier qui a donné sa sueur pour creuser le sol de Suse, de l'habitant qui a observé la mission de la foi s'installer pendant 2 ans près de chez lui et à qui il a peut-être même vendu sa maison ou son terrain pour les fouilles. Le deuxième questionnement qui entraîne en réalité tous les autres, c'est celui de la souveraineté sur leur propre patrimoine archéologique des pays fouillés par les Européens. En clair, à qui revient le patrimoine archéologique mis au jour ? Pour reprendre l'exemple des dieux la foi, le firman qu'ils ont obtenu en 1884 pour fouiller à Suse prévoyait grossièrement ceci. « Nous, les Perses, on vous laisse, vous les Français, fouiller chez nous, à condition que, si vous trouvez des objets de valeur en or, en argent ou des bijoux, alors, la moitié pourra partir aux Français moyennant finance, et l'autre moitié, c'est dans notre poche. Mais le jour où on voudra les vendre, on ira voir les Français en priorité. Et puis pour le reste des objets, on fait moite-moite. » Seulement, cet accord n'a pas été respecté. En 1887, Dieu la foi présente les résultats de ses fouilles à Paris, en affirmant que le chat avait renoncé à ses droits sur les objets de la campagne de fouilles qui sont censés lui revenir, affirmation que le chat de Perse va complètement rejeter. S'ensuit une dégringolade au niveau diplomatique qui atteint son apogée lorsque Jeanne Dieu la Foi écrit sous anonymat un article dans un journal où elle explique, je cite, « Cette part était inutile aux Persans, car malgré leur vive intelligence et leur culture littéraire très supérieure aux autres pays musulmans, ils n'étaient pas encore en état de tirer parti de semblables trésors. Zélé Sultan, le nom du gouverneur qui était censé protéger la mission des Dieu la Foi, donna des ordres pour que tous les objets découverts, sans exception, fussent remis à Monsieur Dieu la Foi, et autorisa le chef de notre mission à faire sortir ses collections du territoire persan. » Ce que je viens de vous lire ici est doublement important. Premièrement, ce n'est ni plus ni moins que l'aveu d'une spoliation du patrimoine archéologique persan, organisée par les dieux la foi, avec, si Jeanne dit vrai dans son article, la complicité d'un fonctionnaire perse, sous couvert d'une capacité qu'aurait la France, mieux que la Perse, à étudier des objets archéologiques qui font aujourd'hui encore la fierté du musée du Louvre. Si les mentalités ont continué d'évoluer sur la question du partage du patrimoine, ce n'est que depuis 1968 seulement que la délégation française en Iran a proposé au ministre de la Culture iranien d'arrêter le partage d'artefacts pour laisser à l'Iran les objets de son histoire. Deuxièmement, ce qu'écrit Jeanne Dieu la Foi est le témoin parfait de l'attitude qu'avaient les pays d'Europe envers les nations orientales. Cette attitude paternaliste, de considérer qu'elles n'étaient pas capables de réfléchir sur le passé de leur propre terre. Certes, l'archéologie et toutes les disciplines qui lui sont reliées sont à l'époque des pratiques exclusivement occidentales et ne devaient pas être répandues en Orient. Mais qui sait ce qui se serait passé dans l'histoire de la connaissance de l'Antiquité orientale si les pays fouillés par les Européens avaient eu la souveraineté sur leur patrimoine archéologique ? Nul ne le sait. Et même si toutes les fouilles archéologiques en Orient n'ont pas fini comme ça, c'est cette mainmise orchestrée par les Européens sur le patrimoine archéologique oriental, mais aussi sur la connaissance produite par l'étude de ce patrimoine pendant 2 siècles jusqu'à aujourd'hui, qui a caractérisé la naissance des études orientales en tant que discipline scientifique, avec pour principal motif que les pays en question n'étaient pas prêts à étudier ce qui sortait de leur sol. Cette attitude paternaliste s'ancre dans tout un système de pensée inhérent à l'Occident durant tout le 19e siècle et la première moitié du 20e. Celle de la pensée coloniale, qui, pour justifier l'existence des colonies européennes dans le monde, promeut l'image idéalisée de l'homme blanc, instigant par son savoir absolu la civilisation dans les nations dites primitives, d'Afrique, du Proche-Orient ou de l'Extrême-Orient. Voilà aussi ce que concentre la figure de l'archéologue aventurier. C'est tout à fait ce qui émane du discours de Marcel Dieu la Foi dans l'article qu'il écrit en 1883 sur la Perse pour la revue de la philosophie positive. Je cite « Qu'a-t-il manqué jusqu'à ce jour à la Perse habitée par une population intelligente, propre, si elle est bien dirigée, à constituer une forte nation ? On n'effectuera pas cette transformation en empruntant à l'Europe les marques extérieures de sa civilisation. L'importation en Turquie du costume franc, du code Napoléon et des quarantaines a prouvé jusqu'à l'évidence que nos civilisations étaient des machines trop compliquées pour l'Orient. On ne peut impunément en isoler quelques rouages et les mettre entre les mains de mauvais ouvriers. » Et pourtant, alors même que les Européens s'estimaient les mieux placés intellectuellement pour étudier le patrimoine qu'ils fouillaient en Orient, l'ampleur des conséquences causées par les premières fouilles européennes viendra rendre cette présomption caduque. En fait, les archéologues du 19e siècle sont des gros nuls. Pourquoi ? Eh bien, rien que pour prendre la mesure de l'immensité du chemin parcouru pour en arriver à ce qu'est l'archéologie de nos jours, il vous faut d'abord l'explication avec un exemple d'une de ses méthodes les plus fondamentales, la stratigraphie. Imaginez que vous creusez un trou dans votre jardin, peu importe la raison. Votre descendance, qui habitera la même maison, va, disons, s'en servir comme une décharge d'objets cassés. Et puis, plus tard encore, la maison va finir par être abandonnée. Après cet abandon, le trou que vous aviez creusé va se remplir au fil du temps de sédiments. Et quand les archéologues vont venir fouiller votre maison, ils vont dégager les sédiments, puis ils vont tomber sur les restes d'objets cassés déposés par vos descendants et enfin sur le trou initial que vous avez creusé. Cette méthode sert à dater les couches archéologiques d'un site pour pouvoir dater à leur tour les objets contenus dans ces couches. L'archéologue qui fouille votre ancienne maison va donc faire l'inventaire des objets qu'il a fouillés dans chaque couche du trou. Comme ça, il peut savoir à peu près quel objet date de quand et avec quoi il a été retrouvé. Parce que oui, la nature ou la fonction d'une épingle, par exemple, ne va pas être interprétée de la même manière selon si on la trouve dans, je dis n'importe quoi, une salle de bain ou une tombe. Et ça, ça s'appelle le contexte archéologique. Sauf que la stratigraphie, au 19e siècle, elle est toute récente dans l'archéologie. Donc nos archéologues là, ils en avaient rien à cirer de ce qu'ils trouvaient en surface. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était creuser au plus profond pour trouver les objets les plus anciens de l'humanité. Donc, ils ont creusé à la va-vite, jusque profond sous la terre, et en faisant ça, ils ont tout simplement détruit une énorme partie des restes archéologiques des époques les plus récentes que ceux qu'ils recherchaient. Pire encore, les techniques archéologiques dont les premiers archéologues du Proche-Orient disposaient étaient conçues pour des sols et des ruines européennes qui n'ont rien à voir avec celles du Proche-Orient, ce qui occasionna aussi des destructions de patrimoine. À côté de ça, les objets des premières fouilles sont souvent très mal inventoriés, et les trois quarts du temps, les rapports de fouilles ne donnent pas ou très peu de contexte archéologique sur les objets, donc bonne chance pour comprendre à quoi ils servent. Bon, quand je disais que les archéologues du 19e étaient nuls, j'ai fait un peu exprès de grossir le trait. En fait, ce jugement ne serait valable que si les archéologues du 19e siècle avaient toutes les connaissances que nous avons amassées sur l'archéologie, or ce n'est absolument pas le cas. Déjà, le métier d'archéologue n'existait pas vraiment à l'époque, puisque comme je le disais plus tôt, les premières fouilles ont été pratiquées par des gens qui étaient soit des militaires, des diplomates ou des ingénieurs comme Marcel Dieulafoy. À l'époque, l'archéologie était une discipline naissante, qui avait besoin de gagner en maturité, et la seule manière qu'elle a eu d'apprendre, de se remettre en question pour changer ses méthodes, fut ce qu'on a compris après comme la voie de la destruction. On ne pourrait pas se dire aujourd'hui que les archéologues du 19e fouillaient comme des bleus si justement ils n'avaient pas fait ces erreurs-là, car elles ont construit notre connaissance de la discipline. En nous retournant sur cette histoire de l'archéologie proche-orientale, comme on la lit dans la presse ou dans certains livres d'histoire, on pourrait croire à une véritable aventure de l'archéologie menée par ces voyageurs européens chevronnés qui, comme les dieux la foi, ont su tirer de leur long sommeil les civilisations de l'Antiquité orientale pour en exposer la richesse aux yeux du monde. Mais ce récit est bien plus idéaliste qu'historique. Certes, on ne peut aucunement enlever le brio qui caractérisa ces premières avancées archéologiques, car au vu des données très minces dont on disposait à l'époque, il ne fallut pas moins que du génie pour déchiffrer les civilisations de l'Antiquité orientale. Mais ce récit fantasmé ignore totalement le contexte colonialiste de ces découvertes. Il efface ou minimise la place de femmes et d'hommes qui ont participé de leurs mains à ces découvertes, autant qu'il efface ou minimise les responsabilités des archéologues européens en les plaçant dans nos mémoires comme des héros, alors même que certains ont profité de leur position pour piller légalement le patrimoine archéologique des nations du Proche-Orient. Mais maintenant, sachant le contexte colonialiste dans lequel a émergé l'archéologie du Proche-Orient, et par la même occasion le fantasme orientaliste de l'archéologue aventurier. La question est, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On pourrait être tenté de faire la peau à ce fantasme de l'Orient. Et après tout, c'est un héritage de pensée qui est commun à tous les Européens, donc chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Pour ma part, je crois que rejeter complètement cet imaginaire tuerait ce qui me semble être l'une des premières vocations de l'histoire, nous faire rêver. Un rêve n'est rien d'autre qu'un esprit qui voyage. Et dans ce voyage où la curiosité nous pousse à explorer, à nous confronter au monde, qu'il soit proche ou lointain, réel ou immatériel, passé, présent ou futur, l'histoire devient au rêve ce que la boussole est à tout voyageur. Un guide qui transformera le fantasme incohérent en un rêve lucide et éclairé. Plutôt que de rejeter en bloc cet imaginaire, cette émission cherche à l'appeler en vous. Avec sa couverture, ses musiques, ses photos, son bureau et son carnet qui sont toutes les semaines mis en scène sur les réseaux sociaux, bien sûr, à sa propre échelle et avec toute la modestie dont elle peut faire preuve, pour tenter de redéfinir cet imaginaire, non pas comme un fantasme de supériorité coloniale de l'Occident envers l'Orient, mais plutôt comme un espace de voyage et de rêves guidés par la connaissance. J'espère que les quelques minutes que nous avons passées ensemble vous ont permis de voyager un petit peu. Un grand merci à l'équipe de Radio Campus Paris qui produit cette émission. N'hésitez pas à vous faire rêver en suivant cette aventure sur Instagram, @les-antiquités-orientales, et sur Facebook, en tapant les antiquités orientales dans la barre de recherche. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Alors, à bientôt.